Chers amis, mes chers frères et sœurs, cet après-midi nous avons comme sujet le mystère du rocher sur le mont du Temple, enfin dévoilé. Alors nous aurons une après-midi très mystérieuse. Pour commencer, vous voyez ici quelque chose des pentes de l'est du mont du Temple. Sur cette montagne, il y a un rocher qui va nous occuper particulièrement. Tout d'abord, lorsque je parle du mont du Temple, je dois expliquer que le rocher qui forme le sommet se trouve à 743,7 mètres au-dessus de la mer. Donc, pour un vrai Suisse, c'est une colline, c'est pas une montagne. Vous voyez, pour un Suisse, les vraies montagnes, ça commence à partir de 4000 mètres au-dessus de la mer. Mais comment c'est possible qu'une telle colline mette la sécurité du monde en question? Car vous avez réalisé les derniers temps que c'est cette petite colline qui forme le centre du conflit au Proche-Orient qui est un danger pour le monde entier. N'est-ce pas, nous avons des si belles montagnes en Suisse et personne ne s'intéresse pour ça, pour faire la guerre. Mais une petite colline, comment c'est possible? C'est irrationnel. Mais je vais vous expliquer la vue des Saintes Écritures de cette colline. Voilà. Une Bible hébraïque, symbolique pour montrer ce que dit la Bible. Selon la parole de Dieu, l'Éternel a choisi des immensités de l'univers, une toute petite planète bleue, pour faire dérouler l'histoire sainte. Et de cette petite planète, le Seigneur a choisi un petit pays à la jonction des trois continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, la Terre sainte, comme il est écrit dans Zacharie 2. Et de ce petit pays, le Tout-Puissant a choisi une petite ville, tout particulièrement. Et les psaumes disent que l'Éternel aime les portes de cette ville plus que toutes les villes de Jacob. C'est Jérusalem. Et à Jérusalem, Dieu a choisi cette petite, relativement petite esplanade sur le mont Sion, ou sur la colline de Sion. D'ailleurs, cette colline est aussi appelée dans la Bible le mont Morija. Et voilà, nous allons nous occuper du sommet de cette colline qui se trouve ici dans le centre de la mosquée d'Omar, ou le dôme du roc. Maintenant, je fais un résumé de quelques points importants de hier soir. Pour ceux qui sont là aujourd'hui et n'ont pas entendu le Jérusalem et le drame du temps. Je commence à l'an 1004 avant Jésus-Christ. Voilà, il a 3000 ans. C'est un jubilé, actuellement. 3000 ans depuis le moment que le roi David a conquis cette petite ville de Jérusalem qui se trouvait alors à la pente sud du mont de Sion. Et par la révélation divine, prophétique, David a su que c'est ici le lieu que l'Éternel a choisi pour y faire habiter son nom, pour faire construire le temple. Et voilà, j'ai expliqué hier que Moïse, 21 fois, dans ses discours, dans le Deutéronome, il a mentionné ce lieu choisi. Et il a expliqué, Deutéronome 12, verset 13, que Israël devrait se garder à offrir des holocaustes dans un autre endroit que celui-ci que Dieu a choisi. Donc David, tout de suite, après avoir conquis Jérusalem, il a fait de cette ville la ville capitale des 12 tribus d'Israël. Vous voyez ici le rocher sur le sommet. D'ailleurs, il est intéressant que la division entre le territoire de la tribu de Juda et de Benjamin se trouve ici sur la colline. Ça monte ici jusqu'au sommet et descend. Je vais lire quelques versets dans le livre de Josué où le sommet de cette montagne est déjà mentionné. Peut-être que vous avez lu ça sans réaliser. Josué 15 au verset 8. Et la frontière montait la vallée de Ben-Hinnom vers le côté méridional de Jébus, qui est Jérusalem. Et la frontière montait au sommet de la montagne, qui est en face de la vallée de Hinnom, à l'occident, qui est à l'extrémité de la vallée des Réphaïm au nord. Et la frontière fut tracée depuis le sommet de la montagne jusqu'à la source des eaux de Nestor, etc. Vous avez eu l'expression deux fois, la sommet. Voilà, Salomon a agrandi la ville vers le nord jusqu'au sommet de la montagne. Et il a construit ici le premier temple, le temple de Salomon. D'ailleurs, la frontière entre Juda et Benjamin est allée ici entre deux, entre la maison, le temple proprement dit, et l'autel que vous voyez. Donc, la maison proprement dit était dans le territoire de Juda et l'autel dans le territoire de Benjamin. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, il n'y avait aucune tribu qui aurait pu dire « Jérusalem, ça appartient à nous ». Donc, ces deux tribus ont dû partager la ville. C'est pour ne pas forcer l'orgueil d'une tribu. Et d'autre côté, Jérusalem est ainsi posée que les tribus du sud et les tribus du nord ont à peu près le même accès là au centre. Voilà la sagesse divine. Mais Israël s'est détourné du seul vrai Dieu. Ils avaient un temple à Jérusalem comme témoignage pour un seul vrai Dieu. C'est pas les païens, ils ont beaucoup de dieux et ils ont beaucoup de temples. Israël avait un temple comme témoignage pour le seul vrai Dieu. Mais dans la suite, le temps des rois l'a prouvé, Israël s'est détourné du seul vrai Dieu. C'est pour ça, à l'an 586, l'armée babylonienne sous Nebuchadnezzar a détruit complètement Jérusalem et le temple. Ils ont amené en captivité à Babylone les Juifs, un peuple qui s'est détourné du seul vrai Dieu, ne devait plus avoir le témoignage du seul vrai Dieu. Voilà le palais de Nebuchadnezzar, rebâti par Saddam Hussein, à Babylone. Et là, le peuple a commencé à se repentir. Et comme Jérémie l'a dit, la période de Babylone comme empire mondial durera 70 ans. C'est exactement depuis 608 jusqu'à 538. À 538, en octobre, les Perses et les Mèdes ont conquis l'empire babylonien. D'ailleurs, les Mèdes sont les ancêtres des Kurdes. C'est pour ça que les Kurdes sont très fiers de savoir qu'ils ont une fois conquis avec les Perses l'empire babylonien, l'Irak. Vous voyez, c'est un moyen, en parlant avec des Kurdes en Europe, pour les faire intéresser pour la Bible, parce que, par exemple, le roi Darius, le Mède, dans le livre de Daniel, c'est un Kurde. Alors, il faut les expliquer que la Bible aime les Kurdes, en parenthèse. Les Kurdes sont importants dans la Bible. Alors, Cyrus, le roi de Perse, a donné la permission aux Juifs de retourner à Jérusalem. Et le livre d'Esdras nous explique très bien qu'ils ont rebâti sur les traces de l'ancien le deuxième temple. Donc ils n'ont pas bougé quelques coudées à côté. Sur les traces de l'ancien, ils ont rebâti le temple. Voilà, le temple de Salomon était un carré de 500 sur 500 coudées. Et là-dessus, ils ont reconstruit le deuxième temple. Ils n'avaient pas beaucoup de richesses. Ils ont reconstruit un temple humble, mais au moins, ils avaient de nouveau le témoignage pour le seul vrai Dieu à Jérusalem. Vous voyez, la Bible est un livre missionnaire, dès le début jusqu'à la fin. Dieu a toujours eu en vue toutes les nations, pas une seule nation. Mais on peut dire que la mission dans l'Ancien Testament était surtout une mission centripétale et la mission du Nouveau Testament centrifugale. N'est-ce pas? La force centripétale s'explique ainsi. Lorsque une chose tourne autour de l'axe, il y a une force qui attire donc la chose vers le centre. C'est la force centripétale. Centripète, voilà. Centripète, centrifuge. Et la force centrifuge, c'est donc le contraire. C'est une force qui éloigne vers l'extérieur donc une chose qui tourne autour d'une axe centrale. Et voilà, dans l'Ancien Testament, nous avons cette mission centripète qui attire les nations à venir à Jérusalem. Pensez à la reine de Sheba qui a fait un voyage depuis le sud du péninsule arabe pour venir à Jérusalem, pour connaître le seul vrai Dieu. Pensez à l'Éthiopien, acte 8, qui a fait depuis l'Afrique noire un voyage jusqu'à Jérusalem pour connaître le seul vrai Dieu. Et Salomon déjà, lorsqu'il a dédié le temple, il a prié, et si l'étranger vient et il prie vers ce Dieu, toi dans le ciel, écoute sa prière. Voilà, c'est pour attirer les nations pour connaître le seul vrai Dieu. Donc la mission de l'Ancien Testament s'explique ainsi. Venez toutes les nations. Ésaïe 45. Et la mission du Nouveau Testament, le Seigneur dit, allez, dans le monde entier pour annoncer de la bonne nouvelle. Cette mission centrifuge vers 20 avant Jésus-Christ, le roi Hérode, pour faire plaisir aux Juifs, il a donné de ses richesses immenses pour qu'ils augmentent et agrandissent le deuxième temple à Jérusalem. Et il a atteint la double surface. Ils ont même rempli la vallée au nord, la vallée de Bethesda, pour agrandir le temple. Et finalement, le temple, à l'époque de la naissance du Messie Jésus, était beaucoup plus splendide que le temple de Salomon. Et Hérode a aussi donné des sommes énormes pour faire glorieuse et majestueuse toute la ville de Jérusalem. Jérusalem n'a jamais vu une telle gloire comme à l'époque de la naissance de Christ. Voilà la providence divine. Mais lorsque le Messie est arrivé, finalement, il a été jeté du temple, condamné à mort dans le temple devant le Sanhédrin et crucifié en dehors de la ville de Jérusalem sur le calvaire de Golgotha. Mais j'ai expliqué hier soir, comme les prophètes ont dit, dans la suite de l'assassinat du Messie, Jérusalem et le temple va être détruit. Alors, en 70, les Romains ont détruit complètement Jérusalem et le deuxième temple, en accomplissant la prophétie du Lévitique 26-31, où Moïse, vers 1500 avant Jésus-Christ, avait prévu les conséquences du rejet du Messie. Voyez pas votre ville, selon Jérusalem. Dans les deux guerres des Romains contre les Juifs, 66 à 73 et 132 à 135, les Romains ont détruit plus que 1000 villes et forteresses en Israël. Je réduirai vos villes en ruines. Je détruirai votre sanctuaire. Je n'accepterai plus vos sacrifices. Je dévasterai votre pays. Je vous disperserai parmi les nations païennes et je vous poursuivrai avec l'esprit. Et voilà, le peuple d'Israël, depuis, n'a plus des sacrifices parce qu'ils n'ont plus eu de temple. Ils ont été, dans un processus de centaines d'années, dispersés dans le monde entier, dans tous les 5 continents du monde, et le pays qui ruisselait de lait et de miel est devenu un désert. Osée 3, 4, 8e siècle avant Jésus-Christ, décrit cette période du peuple d'Israël sans état. En effet, les Israélites resteront pendant le long jour sans roi et sans chef, sans sacrifice, sans effort. Après cela, ils reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté à la fin des jours. 1948, l'État juif a été fondé. Après presque 2000 ans, pendant le long jour, il était sans roi et sans chef. C'est fini. Ce n'est pas pour l'éternité. C'est pas, la Bible est simple. Lorsque la Bible dit éternellement, c'est éternellement. Lorsqu'elle dit pendant le long jour, c'est pendant le long jour. Il y a un petit détail. Alors il est écrit que pendant le long jour, ils seront sans sacrifice. Non, pas pour toujours. Celui qui a un problème, que les sacrifices reviendront, alors il a un problème avec ce passage, parce qu'il dit clairement, pendant le long jour, ils seront sans sacrifice. Donc, les sacrifices devraient revenir sans effort. L'effort est une partie des habits du souverain sacrificateur. Maintenant, actuellement, on est en train de refaire les habits du souverain sacrificateur, d'ailleurs pour plusieurs millions de francs. Alors, on est dans cette période où ces longs jours sans effort se terminent. Pendant presque 2000 ans, les Juifs ont été persécutés dans le monde entier. Plus que 13 millions de morts. Depuis donc 70 jusqu'à aujourd'hui. Mais les prophètes l'ont clairement annoncé. Ézéchiel 36, 24, 6e siècle avant Jésus-Christ. Je vous retirerai des nations. Je vous rassemblerai de tous les pays étrangers. Et je vous amènerai dans votre pays. Et nous sommes des témoins oculaires que les Juifs sont retournés dans notre époque historique de tous les 5 continents, de plus que 140 pays différents. Psaume 147, 2. L'Éternel rebâtira Jérusalem. Il y rassemblera les déportés du peuple d'Israël. Nous sommes des témoins oculaires. 14 mai 1948, David Ben-Gurion a annoncé par la radio, ici, État d'Israël. Nous avons attendu 2000 ans à ce jour. Mais lorsque le temps est venu pour l'Éternel, nul ne peut lui résister. Madame Golda Meir décrit ce moment parce qu'elle était ensemble avec les 400 sionistes là à Tel Aviv, vivre ce moment fantastique. Peu de temps après la destruction de 6 millions et demi de juifs, elle l'a dit, tout le monde avait des larmes dans les yeux. Et un rabbin s'est levé après, il a prié, Baruch Ata, Melech Haolam, Shehecheyanu Vekimanu Vehigyanu Lezman Hazeh. Golda Meir, elle écrit, c'est une prière connue par chaque enfant juif, mais cette prière n'a jamais eu une telle signification pour nous comme à ce moment-là. Car cette prière traditionnelle dit, béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi du monde, qui nous a gardés et qui nous a portés et qui nous a laissés vivre jusqu'à ce moment-là. C'était tellement touchant, alors ces longs jours sans prince étaient finis. Mais depuis le 15 mai 1948, des États islamiques autour d'Israël ont essayé de détruire cette nation complètement. Le pire des moments était dans les années 60, lorsque dans cet hôtel en Alexandrie, c'est le Hotel Palestine, on avait décidé de détruire maintenant complètement l'État d'Israël et de chasser les Juifs à la mer. La conséquence, c'était la guerre des 6 jours, une guerre d'existence, mais le troisième jour, un troupe de parachutistes a reçu le commandement de conquérir le monde du temps. C'était une conséquence parce qu'on a essayé de détruire les Juifs, alors ils sont allés un pas plus loin, ils ont cherché, ils ont pris le monde du temps. Voilà, ils montrent ici, et depuis, des mouvements se sont développés en Israël parmi les Juifs orthodoxes pour rebâtir le troisième temps. Des ustensiles pour le temps sont préparés. Ici, le chandelier d'or. C'est pour la première fois qu'un chandelier d'or est préparé depuis l'an 70 pour le temps. D'ailleurs, vous savez que les Romains ont volé les ustensiles du temps. Et sur l'arche du triomphe à Rome, de Titus, on voit entre autres un chandelier de cette branche. Et alors, on se demande où il se trouve actuellement. Et c'est une chose que j'ai appris tout récemment. On avait toujours la pensée que c'est le Vatican qui le possède. Mais jusqu'à très récemment, ils ont toujours nié, et finalement, ils ont quand même avoué, nous l'avons. Alors, ce que j'ai entendu par une source assez secrète, et ils ont dit, d'abord on avait l'idée de le rendre à l'État d'Israël lors du contrat de paix en 1994, et finalement on n'a quand même pas fait, et on n'était pas encore au compte. Bon, s'ils ne le rendent pas, ils l'ont déjà préparé. Et j'ai expliqué hier soir, un troisième temple doit venir d'après la prophétie biblique. Et d'ailleurs, nous avons un chapitre dans la Bible où tous les trois temples sont mentionnés. Ça c'est peut-être intéressant pour les étudiants de la prophétie biblique. Je mentionne Daniel 9 et j'indique les versets. D'abord, au chapitre 9, verset 17, Daniel, en captivité babylonienne, mentionne le temple détruit à l'époque. C'était le premier temple, le temple de Salomon. Alors, verset 17 parle du premier temple. Ensuite, j'ai expliqué hier soir les semaines de Daniel, les 69, qui se sont accomplies exactement jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Dans les conséquences, au verset 26, il est dit qu'un peuple va venir pour détruire, de nouveau, Jérusalem et le sanctuaire. Voilà, la destruction de Jérusalem et du deuxième temple mentionné au verset 26. Mais Daniel parle de la dernière semaine de Daniel, une période de 7 ans, qui est encore futur, qui est placé juste avant l'arrivée du Messie en gloire. Et là, il est dit au verset 24, après cette dernière semaine de Daniel, qui est encore future, un sanctuaire sera loin. Il faut dire, le deuxième temple n'a, en contraste avec le premier, jamais été loin. Il y a plusieurs distinctions. Par exemple, il n'y avait pas d'arche de l'Alliance dans le deuxième temple. La première, il y avait. Il n'y avait pas la nuée de gloire, comme sur le premier temple. C'était pas, elle n'était pas présente, la Shekhina, comme on dit en hébreu, au deuxième temple. Il y avait encore plus de différences, et une différence, mentionne le Talmud, c'est le deuxième temple n'a jamais été loin. Mais là, il est question d'un sanctuaire futur qui est loin. Donc, c'est le troisième temple, le temple des derniers jours. Et il va venir, mais il se pose un grand problème. Vous voyez, après ces quelques décennies, l'instruction du premier temple, 586 jusqu'à 537, où on a rebâti le temple, quelques décennies, il y avait toujours les traces du premier. Alors, on pouvait bâtir le deuxième temple exactement sur les traces du premier. Et maintenant, après presque 2000 ans, on se demande où se trouvait le deuxième temple exactement. Vous dites, c'est pas important, c'est pas. Au moins, il se trouve sur le mont de Sion. Mais j'ai dit que le livre des Esdras a plusieurs passages qui insistent que l'autel était reconstruit sur la place de l'autre, que le temple était, devait être reconstruit sur la place de l'ancien, alors c'est la même chose pour le troisième temple. Et je vous raconte une anecdote transmise par l'histoire. Au deuxième siècle, l'empereur Hadrien a donné aux Juifs la permission de rebâtir le temple. Vous voyez, quelques décennies après la destruction, en 70. Alors, une délégation des Samaritains est allée vers l'empereur et ont dit, ne permets jamais cette chose, car ils vont faire la rébellion après contre toi. L'empereur aurait dit, j'ai promis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit simplement, vous avez le droit de construire, mais le mettez quelques coudées à côté de l'ancien. Et la tradition dit que, après cela, le peuple juif lui-même a abandonné le plan de reconstruire le temple. Ils ont porté deuil comme nation sur cette catastrophe. Donc, cela montre un peu l'importance de connaître exactement l'emplacement de l'ancien. Alors, qu'est-ce que ça sert d'avoir reconstruit le mont du temple si ce n'est pas absolument sûr où se trouvait le deuxième temple? Eh bien, j'ai expliqué déjà hier soir que le rétablissement de la nation d'Israël allait d'une impossibilité à l'autre. Lorsque les premiers juifs sont retournés depuis 1882, ils ont commencé à acheter du terrain et alors la généralité du monde a dit qu'ils sont absolument fous. Ils retournent en Palestine, c'est un pays islamique. Selon la doctrine islamique, il est absolument interdit que des non-musulmans règnent sur une terre qui était une fois terre islamique. Est dominé par l'islam. Impossible. Alors ils ont dit, c'est fou. On s'est demandé, mais comment ça va se passer? Parce que la prophétie dit, Israël sera nouveau nation. Avec des princes. Eh bien, 1914, lorsque les témoins de Jéhovah ont annoncé que c'est le moment où le règne de paix de Christ va être établi. Oui, c'était pas un enseignement de la Bible. Et voilà, la première guerre mondiale a été déclenchée. Et pendant la guerre, les Anglais ont donné aux Juifs la permission d'établir un État national juif en Palestine. Il fallait la pire des guerres jusqu'alors de toute l'histoire humaine. Mais après la guerre, il y avait une telle opposition islamique que les Anglais, ils ont pris froid aux pieds et ils ont essayé de s'en sortir de la déclaration de Balfour. Voilà, il fallait une deuxième guerre mondiale avec la destruction de 6,5 millions de juifs. Et après la guerre, la majorité de l'ONU a, contre les nations islamiques, voté pour la fondation d'un État juif en Palestine. Parce qu'ils étaient tellement sous l'impression de cette catastrophe de la destruction des Juifs. Aujourd'hui, ça serait impossible. Mais dû à la Deuxième Guerre mondiale, l'impossibilité est devenue possible. Et après, on s'est dit, mais alors, la Bible dit que les Juifs retourneront au mont de Sion. Comment c'est possible? Car l'ONU a exclu à cette époque-là le mont du Temple, Jérusalem de l'Est. Ce n'était pas prévu pour l'État juif. Alors, j'ai montré, dans les années 60, des nations islamiques ont essayé de détruire de nouveau l'État juif. Et cela a donné l'occasion pour prendre le mont du Temple. Et maintenant, on peut se demander, mais ils ont pris le mont du Temple, mais comment ils peuvent reconstruire ici un troisième temple? C'est impossible, car l'Esprit du Temple occupe la troisième place de l'hierarchie des lieux saints dans l'islam. Après la Mecque, Médina, voilà, l'Esprit du Temple à Jérusalem. C'est impossible, on dirait. Oui, impossible. Mais imaginez, c'est pas écrit dans la Bible, dites pas que j'ai dit que la Bible enseigne cela, mais imaginez le moment que tous ces processus de paix arrivent à ce point-là qu'on ne voit plus de solution. Alors, la conséquence de la doctrine islamique, c'est détruire l'État juif. Et ça se peut qu'on se dira, alors c'est le moment pour le troisième temple. C'est une conclusion que je fais chaque fois dans les décennies passées, lorsqu'on a essayé de détruire le peuple juif, finalement, l'histoire sainte est avancée encore un pas. Mais j'ai dit un problème fondamental. Où était exactement l'emplacement du temple? Eh bien, c'est ça le sujet de cet après-midi. Tout cela était l'introduction au sujet. Et répétition, comme les Romains ont dit, repetitio mater studiorum est, la répétition est la mère de l'étude. Alors voilà l'esplanade du temple, mais où se trouvait, par exemple, le lieu très saint? Ici, vous voyez Lane Riedmeier. C'était l'archéologue architecte principal pendant des années des fouilles vers le mont du temple qu'on a pu faire après la guerre des six jours. Lui, actuellement, il habite en Angleterre, mais il a vécu pendant 22 ans en Israël, parle aussi l'hébreu couramment, et il a travaillé donc 22 ans sur le mont du temple, et finalement, il a pu résoudre toutes ces questions. Il a fait son doctorat à l'Université de Manchester sur ce sujet-là, et il a reçu le doctorat avec raison. Donc, je vous explique maintenant sa thèse, et c'est vous qui, après pouvez juger si ça tient ou pas. Mais je vous préviens que nous allons faire un puzzle de plusieurs milliers de petits parties et ça joue jusqu'au dernier point. Après cette longue introduction, nous allons découvrir le mystère du rocher. Voilà l'esplanade du temple avec ses 144 000 mètres carrés. Au milieu de l'esplanade, il y a encore une esplanade augmentée qu'on appelle l'esplanade musulmane. Ici, à peu près au centre, il y a le dôme du roc, la mosquée d'Omar. Et vous voyez de chaque direction, de l'est, du sud, de l'ouest et du nord, il y a des escaliers pour monter. Et vous voyez que chaque escalier est construit en parallèle avec la ligne auquel il se trouve. Sauf ici. Vous voyez, ces escaliers ici, vers le nord-ouest, ils ne sont pas du tout en parallèle avec la lignée. Eh bien, déjà avant Lane Rittmeyer, un archéologue a réalisé cela. Il s'est demandé, mais pourquoi? Alors, on a considéré de près ces escaliers et on a réalisé la première partie des escaliers est composée de pierres énormes qu'on appelle des ashlars. Ashlars, ce sont donc des très grandes pierres de bâtiment qu'on a préparées exactement pour un mur ou un bâtiment. Alors on s'est dit, les autres escaliers sont tout à fait différents, faits de petites pierres. Alors peut-être les musulmans, au 7e siècle, lorsqu'ils sont venus à Jérusalem, ils ont utilisé encore un reste de mur pour construire ces escaliers. Ça fait une possibilité. Et Eric Mayer s'est basé sur cette pensée et il savait, depuis les récits historiques de Joseph Flave, sacrificateur du 1er siècle, que nous possédons, lui, il a expliqué dans ses œuvres qu'à l'époque d'Hérode, on avait augmenté, agrandi la place du temple vers le nord, vers l'ouest et vers le sud, mais jamais vers l'est. Pourquoi? Parce que là, il y a la vallée du Cédron qui est très très profonde. C'était impossible de remplir la vallée du Cédron pour changer cette ligne. Donc il savait, en fait, la ligne de l'est, l'esplanade, restait la même depuis Salomon. Alors il s'est dit, mais puisque nous savons que l'esplanade de Salomon était un carré de 500 sur 500 coudées, on apprend par le Talmud, il s'est dit, peut-être c'est un reste de ce mur. Et je vais encore expliquer que cette dernière pierre ici au coin est effectivement une pierre de coin. Donc on sait de toute façon que le mur n'est pas allé plus loin vers le nord. Donc depuis ce point-là, il a mesuré jusqu'à l'est, au mur est. Et ça passe ici à côté d'une fente naturelle de rocher. Exactement. Et il a calculé, mesuré, exactement 500 coudées royales. Une coudée royale est exactement 52,5 cm. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, puisqu'il a eu ce point ici, il a essayé de mesurer au long du mur est. Et déjà depuis le 19e siècle, on savait qu'il y a ici un petit changement de direction dans le mur est. En anglais, bend, changement de direction. Et cela se peut que ce changement de direction provient du fait qu'on avait plus tard ajouté à ce mur. C'est possible, n'est-ce pas? Alors, il a mesuré depuis ce point-là, jusqu'au changement de direction, exactement 500 coudées royales. Déjà pas mal. Alors, il a, avec la géométrie qu'un enfant déjà peut effectuer, il a fait le carré. Et qu'est-ce qu'on réalise? Vous voyez, au 19e siècle, des ingénieurs d'Angleterre étaient appelés par les Turcs, par les Ottomans, à venir à Jérusalem pour refaire toutes les installations d'eau. Parce que Jérusalem était dans un état pitoyable, catastrophique. Alors ces ingénieurs, ils ont dit, oui, alors, mais d'abord, nous devons regarder toute Jérusalem, aussi souterrain. Ah oui, vous pouvez? Ce qui n'était jamais possible avant, ils ont pu aller dans le monde du temps, et ils ont fait des descriptions dans les détails de structures souterraines du monde du temps. En tout, on connaît, à cause d'eux, 37 structures souterraines. Vous voyez ici, au sud, il y a ces tunnels que j'ai montré ce matin. Depuis la belle porte, il y avait un tunnel, et depuis la triple porte, vers l'esplanade du temple. Et vous voyez, ce carré vient presque vers ce tunnel. Donc, par ce tunnel, on pouvait monter le mont du Temple et on n'était pas tout de suite dans le territoire effectivement saint du Temple. Et ici, il y a aussi des escaliers souterrains depuis le mur ouest. C'est là où se trouve le mur de lamentation. Donc, des escaliers du Temple qui forment un aile. Alors, on se demande, mais pourquoi ils n'ont pas fait les escaliers directement sur les saints du Temple? Pourquoi ils ont fait un aile? Et maintenant, vous voyez, le carré mène exactement ici dans la pointe du aile. Alors, on ne voulait pas directement mener les escaliers dans le territoire strictement saint du Temple. C'est pour ça qu'on a fait un aile. Donc, il y a quelques aspects souterrains qui jouent assez bien avec ce carré de 500 coudées. Mais je ne suis pas assuré que je vous ai déjà convaincu. On commence seulement. Depuis l'avion, à l'œil, on voit ce changement de direction du mur est. Donc, le territoire des 500 coudées finit ici. Et ça joue exactement avec les tunnels qu'on a dans le monde du temple. Voilà, une maquette, une vue générale. Ici, vous avez ce carré de 500 sur 500 coudées. Et vous voyez, au temps d'Hérode, on avait rempli cette vallée ici, la vallée de Bethesda. Et on voit encore aujourd'hui quelque peu les pentes du mont du Sion et de la montagne au nord du mont du Sion. Et cela était rempli, mais avec le temps, donc le sol s'est affaissé, ou on n'a peut-être même pas absolument correctement rempli. En tout cas, ça se voit. Pourquoi je montre cela? Il y a un monsieur Asher Kaufman qui a aussi essayé de trouver le lieu très saint. Et lui a développé une théorie qui est bien répandue parmi les évangéliques. Et il dit le lieu très saint n'était pas à l'emplacement de la mosquée, mais plutôt au nord. Alors il a la place à peu près ici. Mais lui, il ne savait pas qu'il y avait autrefois ici la vallée de Bethesda. Selon sa théorie, les cours autour du temple de Salomon auraient alors été construits sur la pente du nord du mont de Sion. C'est absolument impossible. Et croyez que peut-être avec cette théorie, on pourra faire un compromis avec les musulmans. On construit le temple un peu sur le nord, mais de toute façon, ça marche pas. Parce que j'ai expliqué hier soir que le grand moufti de Jérusalem vient de sortir une fatwa, donc une décision juridique islamique qui dit toutes les places du temple, tout ce qui est dans le monde du temple et même le mur des lamentations appartient à l'islam. Et celui qui va contre une fatwa, il doit subir la punition capitale. Donc ça joue de toute façon pas un compromis. Maintenant, nous allons ensemble sur les places du temple. Et nous allons vers ces escaliers qui ont donné la clé pour trouver le carré. Et là, vous voyez la première partie de ces escaliers, cette pierre énorme. Il y a quelques années, le niveau n'était pas assimilé à cette première partie des escaliers. Donc, on voyait encore les côtés. Donc, on a vu que c'est effectivement des pierres qui étaient taillées de la façon comme on les a taillées au temps des Perses. Donc, au temps où on a reconstruit le deuxième temple. Et ce n'est pas du tout la façon comme on a taillé les pierres au temps des Maccabées, ou au temps d'Hérode, ou même au temps islamique. Ce qui n'est pas le cas pour les autres pierres. Et là, même vous voyez cette ligne qui n'est pas en parallèle avec cette ligne. Cette ligne est absolument parallèle avec cette esplanade musulmane. Ici, vous allez apprendre un peu l'archéologie des pierres à Jérusalem. Comme on dit, à cette partie d'une pierre, parement. Et le corps, voilà. Et vous voyez, les pierres de l'époque d'Hérode, ils étaient vraiment faits d'une façon très très fine, très artistique. Autant, des Maccabées, des Ammoniens, c'était moins artistique, moins fine. C'est typiquement la période des Maccabées. Et ici, vous avez la manière comme on les a fait autant des Perses. Et voilà, cette première partie des escaliers, ce sont exactement ces pierres-là, dans le temps des Perses. Vous voyez, les musulmans, ils ont assimilé le sol ici. Maintenant, on ne peut plus voir, mais j'ai encore une photo de l'époque avant, où on voit donc le parement et le corps, ici à côté. Et la dernière pierre est là, le parement et le corps, des deux côtés. C'est pour ça qu'on sait que c'était la coin de cette construction de mur. Et vous voyez, les autres pierres sont tout à fait différentes. Ce sont des pierres islamique qui ne possède pas de parlement et de corps. Je suis allé une fois avec une de mes petites filles pour regarder ça, et un du WAC, donc des responsables musulmans, il m'accompagnait, et j'ai pris là les photos des escaliers. Enfin, il est complètement fou, hein. Pas, si on verrait un étranger, un Suisse, à Paris, à prendre les photos des pierres des rues, alors on dirait qu'il est complètement à côté. Mais voilà, pour nous, c'est important. Dans le Talmud, qui est l'œuvre fondamentale de la théologie juive, il y a un traité qui s'appelle Midot, mesure. On a écrit ce traité au IIe siècle. Pourquoi? Parce qu'on avait encore donc les connaissances de rabbins qui avaient vu le temps. Alors on a fixé ça par écrit en vue de la reconstruction du temps. C'est pour ça qu'ils ont mis toutes ces mesures, les 500 sur 500 coudées, et là on trouve que les cours intérieurs du temple, la cour des femmes, la cour d'Israël, la cour des sacrificateurs, étaient sur 187 coudées et 135 coudées. Il est aussi écrit l'espace était le plus grand au sud, après à l'est, ensuite au nord et ensuite à l'ouest. Mais il n'est pas dit combien de coudées exactement. Mais heureusement, nous avons un commentaire rabbinique du Moyen-Âge sur le traité Midot. Et ce commentaire, Midot 7.1, explique au sud c'était 250 coudées. À l'est 213, au nord 115, à l'ouest 100 coudées. Alors Lane, comme architecte, qui s'est bien dessiné, il a essayé de mettre les cours intérieurs exactement avec ces mesures, avec ça, le lieu très saint tombe sur le rocher. Il n'avait pas un préjugé de commencer par le rocher et d'établir les autres choses. Mais il est venu des restes archéologiques vers les extrémités du mont du temple pour se travailler plus vers l'intérieur. Et finalement, il a trouvé ça. Une sorte de choc, hein. Alors pour lui, c'était clair. Il faut faire une étude du dôme du roc, du contenu. Et cela, dans l'archéologie, on a essayé toujours d'éviter, pour des raisons connues. Pour lui, c'était clair, il faut le faire, et alors, dans la suite, on l'a souvent vu comme touriste dans la mosquée. Pour lui, c'était clair, le temple proprement dit se trouvait là. Donc il a commencé à ramasser toutes les indications de la littérature historique quant à l'histoire du rocher. Mais c'était un mystère. Vous voyez, nous sommes dans la mosquée, depuis en haut, nous regardons les rochers et on se sent sur la lune. Quoi faire avec ce rocher? Quelle est la signification de cette pierre, le sommet du mont Lucien? Un grand travail. Vous voyez, en fait, le dôme du roc n'est pas une véritable mosquée, parce que tous les mosquées du monde entier sont orientées vers la Mecque. Mais cette mosquée est construite autour du rocher, donc ça ne peut pas être orienté vers la Mecque. Tiens. C'est quand même drôle. Vous voyez le dôme au-dessus, depuis l'intérieur, ça montre l'art islamique. D'abord, il a commencé à étudier le rocher comme tel. Simplement à observer. Dans la science, on doit d'abord observer. Et seulement après, il faut conclure. Vous voyez, là, vers l'est, il y a une pente naturelle qui est comme une rampe. Et on voit qu'on a artificiellement utilisé le rocher comme une carrière. On a pris des pierres ici. Ensuite, il a vu, là, vers le sud, le rocher est artificiellement aplati. Et exactement sur 3,15 m. Il connaissait cela d'autres excavations. Dans l'Antiquité, lorsqu'on a bâti une maison sur le rocher, parce que le sable, parce que c'est vraiment le pou qui bâtit sur le sable, il fallait d'abord aplatir le rocher là où on mettait les pierres des murs. Donc pour lui, c'était clair, ici, il y avait autrefois un mur. Avec une largeur de 3,15 m. C'est intéressant. Ça fait combien de coudées royales? Exactement 6. Et les murs du lieu très saint avaient, selon deux chroniques, pour le premier temple, une largeur de 6 coudées. Dans le traité Midot, le deuxième temple, 6 coudées. Pour le troisième temple, en Ézéchiel, 6 coudées. Intéressant. Là, vers l'ouest, il a trouvé, comme on a mis des escaliers artificiellement dans le rocher. Ici aussi, au nord. Ensuite, vous voyez exactement au centre du dôme, là, il y a une dépression dans le rocher. Et là aussi, il y a une dépression rectangulaire de 79 sur 131 cm. Voilà, une représentation isométrique. On a mis de côté maintenant tout ce qui est dans la mosquée autour du rocher. Et là, vous voyez, vers l'ouest, il y a une pente très forte, mais une pente naturelle du rocher. Et Lane a réalisé, cette pente est en fait en parallèle avec la ligne du mur est de l'esplanade du temple, en dehors. Et c'est pas qu'il n'a jamais changé la direction depuis le temps de Salomon. C'est intéressant. Et voilà, vers le nord, également, il y a une pente naturelle très forte. Ce n'est pas le cas ici, au sud. Mais là, nous avons de nouveau cet endroit où le rocher a été aplati. Vous voyez maintenant mieux ces escaliers à l'ouest et au nord. La dépression rectangulaire, la dépression au centre du dôme. Et maintenant, vous voyez mieux cette rampe vers l'est. En étudiant l'histoire du rocher, il a réalisé que les Romains et les Byzantins, en fait, n'ont pas touché le rocher. Non plus les musulmans, mais il y avait un intermezzo au XIIe siècle. Les croisades de l'Europe avaient ici un royaume pendant à peu près 100 ans. Et du dôme du roc de la mosquée, ils ont fait une église, au moins ce qu'ils ont compris sous le terme église. Ils ont nommé cette église Templum Salomonum. Le temple de Salomon. Pour eux, comme occidentaux, c'était pas esthétique d'avoir un tel rocher au centre de l'église. Alors, ils ont construit un autel de grande hauteur au-dessus du rocher. Et ici, sur cette pente vers l'ouest, ils ont pris des pierres et les ont pendues pour les mêmes poids en or. N'est-ce pas? Comme ça, on peut faire de la pierre de l'or. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais c'est long une description. Alors, vous comprenez maintenant ces escaliers-là, à l'ouest et aussi au nord. Voilà, on peut se représenter à peu près de cette façon, cet hôtel dans l'église des croisades. Mais, à la fin de cette période de 100 ans, le sultan Saladin a jeté dehors les croisades, et voilà, le dôme du roc est de nouveau devenu une mosquée. Ici, vous voyez exactement ce qui est bleu ou violet. Ce sont les destructions aux rochers faites par les croisades. Et ce qui est orange, ou à peu près orange, ce sont les choses que les musulmans ont fait. Vous voyez, ils ont laissé en fait le rocher intact, pratiquement. Mais maintenant, je peux vous expliquer comment il faut se représenter le rocher avant les destructions des croisades. C'est à peu près ça. La pente au nord, à l'ouest. Au nord, la rampe, à l'est, dépression rectangulaire, la dépression au centre. Et maintenant, vous voyez comment on a construit au 7e siècle cette mosquée. On a mis dans quelque chose ici, dans cette dépression au centre, une ficelle, et on a établi dans le radius, le cercle, voilà. Donc, cela, il faut aussi mettre de côté. Ce n'a pas une valeur historique biblique. Alors, Lane se trouvait dans l'avion, 10 000 mètres au-dessus de la Terre. Il a regardé une photo du rocher et s'est dit, alors, je pourrais une fois essayer de faire un dessin. N'est pas la région aplatie au sud, ça doit être un mur. Alors, il a mis un mur. Mais il n'y a pas d'autres régions aplaties pour d'autres murs. Alors, il s'est dit, et peut-être, on a utilisé donc ce rocher de cette façon qu'on a mis le mur à l'ouest, au long de la pente naturelle. Et aussi, là, au nord, hein, à l'ouest et au nord. Et voilà, la distance d'un mur à l'autre fait exactement 20 coudées royales. Mais, le texte biblique de Chronique dit que le lieu très saint du temple de Salomon était un carré de 20 sur 20 coudées. C'est pas mal, ça. Avec ça, il a pu établir le lieu du rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il s'est dit, mais c'est incroyable. C'est des dépressions rectangulaires. Elles se trouvent exactement en parallèle avec les murs que j'ai trouvés. Et aussi exactement au centre du carré. Et qu'est-ce que ça fait? 131 cm sur 79. Ça fait 2,5 coudées sur 1,5 coudées. Il y a plusieurs qui brillent. Alors, à quoi ça correspond? Exode 25, les mesures de l'arche de l'Alliance était exactement ça. Donc, j'ai demandé à trouver l'emplacement de l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint, mais il a eu un problème. Normalement, on représente l'Arche avec le côté large, en parallèle avec le rideau, n'est-ce pas? Mais là, c'est pas comme ça. C'est pas le truc. Mais lorsqu'il a réalisé, le Talmud dit que les draps avaient une longueur de 10 coudées. Alors, dans le tabernacle, le lieu très saint était 10 sur 10 coudées. Alors, si on a apporté dans le tabernacle l'Arche de l'Alliance par le rideau, et il y avait ici 4 colonnes, on ne pouvait mettre l'Arche de l'Alliance que de cette façon que la façade courte soit en parallèle avec le rideau. Donc, ça joue exactement. En plus, dans deux chroniques, j'ai dit qu'on a vu dans le rideau, donc les bas de l'Arche de l'Alliance dedans. Donc, c'est exactement correct. En plus, il a réalisé, mais c'est incroyable, 1 roi 8 parle du fait que le roi Salomon a préparé le dévir, donc le lieu très saint, un lieu pour y mettre l'Arche de l'Alliance. Mais la parole parle d'un tel endroit. Mais on n'a simplement pas fait attention à ça. N'est-ce pas? Nous avons trouvé maintenant l'emplacement de l'Arche de l'Alliance. Et avec ça, on peut rendre actuel tout ce qui est lié à l'Arche de l'Alliance à l'homme du 21e siècle. Tout d'un coup, ça reçoit de nouveau une signification, même politique, mondiale. Et qu'est-ce que c'était l'Arche de l'Alliance? L'Arche de l'Alliance était une protestation du peuple d'Israël contre tous les autres peuples. Toutes les autres peuples. Pourquoi? Parce que dans l'Arche de l'Alliance, il y avait les 10 commandements. Et les 10 commandements révèlent le Dieu de la Bible et ses exigences. Mais personne est capable de mettre en pratique les 10 commandements. Donc le monde entier est coupable. Et voilà, sur le couvert, qui était une unité avec des chérubins, donc des anges en or, il y avait les visages des chérubins qui, selon le livre de l'Exode, étaient orientés vers le couvert, donc vers les 10 commandements. Les chérubins dans la Bible sont des anges qui défendent la sainteté de Dieu. N'est-ce pas déjà au paradis? C'est des chérubins qui ont défendu le chemin pour l'homme qui est tombé dans le péché pour ne pas revenir vers l'arbre de la vie. Donc, les chérubins ici sont orientés vers les 10 commandements. Ils, symboliquement, ils demandent le jugement de Dieu sur toute l'humanité. Mais le jour du grand pardon, le Yom Kippour, c'est le seul jour où le souverain sacrificateur seul avait le droit d'entrer dans le lieu très saint pour mettre une fois une aspersion de sang d'un sacrifice innocent sur le couvercle. Et cette fois, par terre, devant l'arche. Et cela voulait dire, symboliquement, les anges qui défendent la sainteté de Dieu doivent reconnaître que le jugement a été exercé et que tous ceux qui sont autour doivent être réconciliés avec Dieu. Donc on peut expliquer tout le message de la réconciliation avec Dieu. Voilà, nous sommes dans la mosquée. Et vous voyez cette expression encore aujourd'hui, l'emplacement de l'arche de l'Alliance, afin qu'elle ne bouge pas sur le rocher d'une façon indigne. On voit encore aujourd'hui, c'est merveilleux. Et maintenant, vous voyez la reconstruction du lieu très saint sur le rocher. Voilà le mur au sud, sur le rocher, le mur ouest et nord, au long du rocher, l'emplacement de l'arche. L'emplacement du rideau, séparant le lieu saint et le lieu très saint. J'ai expliqué ce matin que le temple représente, dans le langage du Nouveau Testament, l'Église, l'Assemblée. Et le Seigneur Matthieu 16 dit, lorsque Pierre a confessé le Messie comme étant le Fils du Dieu vivant, sur ce rocher, sur ce roc, je bâtirai mon Assemblée, mon Église. Eh bien, vous voyez, le mur sud bâti sur le rocher. Mais, en Éphésiens 2, verset 20, il est dit que Jésus-Christ lui-même, dans ce temple spirituel de l'Église, est la pierre angulaire, la maîtresse pierre du coin, la pierre angulaire. Et qu'est-ce que c'était la pierre angulaire? Dans l'Antiquité, c'était la première pierre qu'on mettait sur le fondement, sur le rocher. Et par sa position, elle déterminait la direction des murs, des autres murs. Mais ici, exceptionnellement, la structure du fondement et de la pierre angulaire est une unité. Vous voyez, cette pierre est la base du mur sud, et en même temps, c'est elle qui dirige les directions des murs par les fontes naturelles à l'ouest et au nord. Et maintenant, je cite un verset d'Ésaïe 28 que déjà les rabbins ont appliqué au Messie. Et aussi le Nouveau Testament l'applique au Seigneur Jésus en 1 Pierre 2. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je pose comme fondement, en Sion, une pierre. Une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un sûr fondement, celui qui se fie à elle ne se hâtera pas. Voilà, une pierre sur le mont de Sion qui est à la fois un fondement et une pierre angulaire. C'est merveilleux, c'est exactement ça. Ça parle du Seigneur Jésus, sur ce roc je bâtirai mon église. Alors, on pourrait publier dans les masses médias maintenant, des nouvelles trouvailles archéologiques prouvent que l'église de Rome n'a pas raison en disant que l'église est fondée sur pierre, un apôtre, mais sur Christ. N'est-ce pas? Toute la structure ici montre que le symbolisme du Nouveau Testament montre clairement que ce rocher, c'est Christ lui-même et pas pierre. Un autre fondement, on ne peut pas mettre que celui qui est mis, c'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 11. Ah, encore une chose très importante. Le souverain sacrificateur, une fois par an, il est entré à travers le rideau, il a mis le sang une fois ici, où l'arche de l'Alliance se trouvait, et cette fois devant. Les sacrificateurs étaient toujours pieds nus dans le cercle. Donc ils se posaient sur le rocher avec les pieds. Et il était sur un fondement qui était aspergé de sang. Et maintenant, je comprends mieux ce que c'est un fondamentaliste. N'est pas, en allemand, les intégristes, on appelle fondamentaliste. Alors, lorsque on parle des chrétiens fondamentalistes, tout de suite on pense que ce sont des intégristes. C'est un terme très négatif utilisé pour des chrétiens évangéliques qui croient que la parole de Dieu, la Bible, est 100% inspirée par Dieu. Mais voyez, alors j'explique en langue allemande, comme ça, je suis fier d'être un fondamentaliste. Parce que c'est ça, c'est un homme qui réalise mon seul fondement est Jésus-Christ, le rocher ensanglanté. Et maintenant, je comprends beaucoup mieux les psaumes et les autres passages, comme le psaume 89, où le psalmiste dit à Dieu, « Tu es le rocher de mon salut. » Le rocher ensanglanté. C'est le fondement. Sur ce fondement seulement, nous pouvons nous tenir devant un Dieu saint. C'est merveilleux. Et en plus, une telle relation intime. Vous voyez, les pieds nus sur le rocher. Un fondement ferme. Voilà le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et le Nouveau Testament de Matthieu 25-27 nous explique au moment où le Seigneur Jésus est mort, 3h l'après-midi. C'est le moment où un sacrificateur devait brûler de l'encens dans le lieu saint. Le rideau qui avait au deuxième temps une hauteur de 40 coudées a été déchiré d'en haut jusqu'en bas pour montrer que maintenant l'accès vers Dieu est ouvert. Le Dieu du judaïsme est le même Dieu comme le Dieu du christianisme, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais dans le judaïsme, Dieu était le Dieu derrière le voile, le Dieu caché. Mais par la mort de Jésus-Christ, Dieu a ouvert l'accès. C'est pour ça Hébreux 10 nous dit que maintenant, avec liberté intérieure, nous pouvons nous approcher du lieu très saint. Et en réalité, ça signifie, par exemple, cela. Dans le judaïsme, on a le droit de prier « Avinu Sheba Shamayim » notre Père qui est dans les cieux. On trouve ça dans le Talmud. Mais les rabbins ont expliqué qu'il ne faut jamais appeler Dieu « Abba » parce que ça ne veut pas dire « Père » mais « Papa ». C'était trop simple. Et nous savons que le Fils de Dieu, il a appelé le Père, son Père, « Abba ». Par exemple, au jardin de Gethsémani. Romains 8, Galates 4 explique que les croyants aujourd'hui ont le droit d'appeler Dieu « Abba ». Donc vous voyez cette intimité qui surpasse tout ce qui était avant, de connaître Tout-Puissant comme Papa, connaître le rocher ensanglanté. Ce sont des dimensions merveilleuses. Vous voyez le visage du souverain sacrificateur qui entrait le lieu très saint, avec une crainte de l'Éternel. Et maintenant nous avons cet accès avec la crainte de l'Éternel, mais avec une intimité qui peut dire Papa. Même dans les difficultés de la vie de tous les jours, nous avons cet accès. Dans les difficultés, simplement dire dans le cœur « Abba », tout en sachant que le Tout-Puissant qui nous a apporté jusqu'à son cœur il est là, chez nous, tout près, dans les problèmes. On a reconstruit le lieu très saint. Mais maintenant, avec les mesures du traité Mitzvot, on a pu reconstruire tout le bâtiment du temple proprement dit, avec tous les chambres autour. Voyez. Alors avec ça, on a aussi pu mettre la cuve pour laver les mains et les pieds des sacrificateurs. On a pu exactement emplacer l'autel, la cour des sacrificateurs, la cour d'Israël. Maintenant, c'est très simple, puisqu'on sait exactement le point de départ et les mesures. Voilà une maquette qui montre l'entrée au temple, la cuve, l'autel. Et alors, si on va sur la place du temple, ensemble, je peux vous montrer, voilà, ici, c'est l'emplacement de l'autel. On pourrait tout de suite le mettre maintenant sur l'emplacement des anciens. Et maintenant, nous pouvons reconstruire le lieu très saint du temple de Salomon. Voilà la porte de l'Est. Le lieu très saint était un peu plus que 3 mètres plus haut que le niveau du lieu saint. Alors, le jour du grand pardon, le souverain sacrificateur est monté sur cette rampe et traversé par le rideau est entré là. Et voilà, dans les psaumes, il dit, « Tu as mis mes pieds sur un rocher qui est trop haut pour moi. » C'est merveilleux. On lit ces versets d'une façon tout à fait différente. Mais on comprend. Esaïe 6, le prophète dit, comme il a vu Dieu dans le lieu très saint, et là, il dit, « Je vis le Seigneur sur le trône très haut. » L'arche de l'Alliance n'est pas tellement haut, mais vous voyez, c'était augmenté. Le lieu très saint, 3 mètres plus haut que le lieu très saint. Voilà la reconstruction du temple de Salomon. Vous voyez le lieu saint, le lieu très saint, la séparation. Voilà une section par le temple qui montre encore une fois cette différence. Et je crois qu'on ne s'est jamais imaginé le temple de cette façon. Mais le deuxième temple était un peu différent. On a augmenté le niveau du lieu saint presque au niveau du lieu très saint. Donc on a mis des grandes pierres comme fondement là. Et maintenant nous comprenons mieux Éphésiens 2, verset 20, qui parle du fondement des apôtres et des prophètes. Alors tout le monde, mais 1 Corinthiens 3, verset 11, dit, il n'y a pas d'autre fondement que celui qui est posé, que Jésus-Christ. Oui, le Seigneur lui-même est la pierre angulaire. Et ce rocher est une unité avec le rocher solide vierge. Du monde Sion. Ça, c'est le fondement Jésus-Christ. Mais sur le fondement de Jésus-Christ, il y a donc ce fondement qui est appelé en Éphésiens 2, verset 20, « Ayant été édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croit pour être un temple saint dans le Seigneur. » Alors ensuite, on a aussi pu reconstruire tous les cours intérieurs avec tous les bâtiments autour du temple proprement dit. Je ne vais pas expliquer tout dans le détail. Ensuite, cette reconstruction, Lane l'a mis sur le plan actuel de l'esplanade du temple. Ça devient plus compliqué, n'est-ce pas? Mais, ce qui est intéressant, là, il a reconstruit les 15 escaliers semi-circulaires qui étaient le podium du cœur des sacrificateurs au temple, qui tombe exactement sur les escaliers à l'est qui mènent sur la plateforme des musulmans. Donc ça montre qu'au 7e siècle, les musulmans ont utilisé les restes de cette construction pour bâtir leur escalier. Une autre chose, j'ai dit par les ingénieurs du 19e siècle, les ingénieurs anglais, on connaît 37 structures souterraines du monde du temple. Et voilà, c'est une des plus grandes là, et vous voyez, elle tombe exactement au milieu de ce bâtiment, de ce portique. Et le Talmud explique que ce portique là, vers la cour des sacrificateurs, était le portique où il y avait un roue pour chercher de l'eau dans le mont du temple, pour laver la cour des sacrificateurs du sang, des milliers de litres par exemple au jour du sacrifice de la Pâque qui coulait. Alors il fallait tout le temps laver cela, il y avait une construction qui après menait l'eau et le sang ici vers l'est dans la vallée du Kidron. Et voilà, ça joue exactement, ça tombe au milieu là de ce portique. Par exemple, ce bâtiment était la maison où les sacrificateurs dormaient. Et là, il est dit dans le Talmud, il y avait dans le mont du Temple, au-dessous, une structure où il y avait un bain rituel pour les sacrificateurs. Et exactement sous cette maison, on a trouvé une structure souterraine. Et on pourrait continuer comme ça. C'est anglais, c'est vraiment bien. Ils ont aussi fait des mesures du rocher vierge du mont du Sion à plusieurs endroits. Et vous avez ici les chiffres de pieds au-dessus de la mer. Alors, Lane a pris cette section ouest-est. Et voilà, il a mis les différents niveaux des cours. Vous voyez, le lieu très saint et le sommet du temple. Et les différentes cours, la cour des femmes est plus bas que la cour d'Israël. Elle est plus bas que la cour des sacrificateurs. Celle-là est plus bas que le lieu très saint. Et le lieu saint, et le lieu saint est plus bas que le lieu très saint. Et on sait par le Talmud exactement le nombre d'escaliers. Donc, il a pu mettre les différents niveaux, et ça joue exactement avec les niveaux du rocher vierge du mont Sion. Peut-être que vous n'êtes toujours pas convaincu. Vous voudriez aussi en une section nord-sud. Et voilà, ça joue également. Donc, c'est bien un puzzle qui joue jusque dans le dernier détail. C'est bon, ça me plaît, mais ça ne suffit pas encore. J'ai expliqué que le rocher dans le lieu très saint a une pente à l'ouest qui est en parallèle avec le mur est de l'Esplanade du Temple. Et si, depuis le rocher qui est le sommet du mont Sion, on tire une ligne en angle de 90 degrés avec le mur est, on arrive exactement au sommet du mont des Oliviers. Et selon le Talmud, c'était là où on a sacrifié la génisse rousse, nombre 19. Et nombre 19, elle nous dit qu'elle devait être sacrifiée hors du camp, devant l'entrée vers le tabernacle. Vous voyez, c'était hors de la ville, hors du camp, et exactement en ligne avec l'entrée vers le lieu saint. Et le Talmud dit que ce sacrificateur qui tuait la génisse rousse, il avait une vue directe dans le lieu saint. Ça joue. Donc vous voyez ici dans un plan topologique, architectonique ou architectural, qui joue jusqu'au dernier détail. Et voilà, je suis allé sur l'esplanade du temple. Voilà, nous sommes ici à la place de la cour des sacrificateurs. Nous avons dans le temple l'entrée du lieu saint. Et voilà, vous avez cette ligne directe en angle de 90 degrés jusqu'au sommet du mont des Oliviers. C'est beau, hein? Et là, vous avez ces escaliers où le chœur des sacrificateurs chantait. Je suis allé sur le mont des Oliviers pour vous donner cette vue de celui qui sacrifiait la génisse rousse. Et vous voyez cette ligne directe, voilà les escaliers du chœur, et dans le lieu saint. Vous voyez, ce n'était pas sur la ligne du portique est du temple. Mais le Talmud ne parle pas de ça, mais elle parle seulement de cette ligne vers l'entrée du lieu saint. Deux mots quant à la génisse rousse. Quelle est sa signification? Je veux parler sur l'enseignement lévitique d'impureté et de pureté. Quand on lit la Torah, la loi de Moïse, on trouve que c'est tellement compliqué, on ne comprend jamais. Ça, on peut toucher des choses, on devient impur, ou on peut toucher, quand on est impur, on peut toucher d'autres personnes, ils deviennent aussi impurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On peut simplifier la chose de cette façon. Par exemple, on est devenu impur lorsque les femmes avaient la période. On est devenu impur lorsqu'un homme a eu une relation sexuelle avec sa femme. Donc vous voyez, chaque fois, lorsque quelque chose sort des ouvertures sexuelles du corps humain, on est devenu impur. Par exemple, si avec un couteau, j'ai fait mal au doigt, le sang sort, on est devenu impur. Seulement lorsque quelque chose sort des ouvertures qui sont à la source de la vie. Vous voyez? Et d'autre part, la parole explique, quand on a touché un mort, on est devenu un. En rapport avec la fin de la vie. La source de la vie, la fin de la vie. Et ce sont, en quelque sorte, c'est la pédagogie de Dieu pour enseigner Israël en vue du Messie. Ce sont deux enseignements fondamentaux. D'abord, l'homme ne peut seulement engendrer qu'un pécheur. Donc lorsque nous transmettons la vie à une nouvelle génération, cette nouvelle génération est composée que de pécheurs. C'est l'enseignement de Romains 5, verset 12. L'héritage du péché. De cette nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam. Et d'autre part, l'autre principe est le salaire du péché et la mort. Romains 6, verset 23. Israël était confronté à cette vérité dans la vie journalière tout le temps. Et voilà la génisse rousse. Il a résolu le problème de l'impureté de la mort. Parce que quand on a touché un mort, on était impur. On ne pouvait plus aller dans, autant. Ce n'est pas qu'on a péché. La relation dans le cœur était toujours là avec Dieu. Mais c'était une impureté symbolique. Alors, on a sacrifié et brûlé complètement la génisse rousse sur le mont des Oliviers. On a pris de la cendre. On a mélangé avec l'eau de la piscine de Siloé. Et on a mis un peu de cette eau sur les impurs. Et après 7 jours, ils sont devenus. Donc, on a appris par cela le péché, qui est le salaire, qui mène à la mort, le salaire du péché et la mort. Le péché rend l'être humain sale. Et comment nous pouvons recevoir la sainteté de Dieu, comment nous pouvons nous échapper à cette saleté du péché, c'est par le sacrifice de la sainteté. Et cela nous explique le Seigneur Jésus, qui est le seul qui peut nous purifier de la saleté du péché de notre vie. Vous voyez, depuis l'an 70, on n'avait plus besoin de génisse rousse. Alors les Juifs n'ont plus eu, pendant des siècles, des génisse rousse. Et maintenant, on peut construire le temple, mais sans génisse rousse, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'était trouvé, et il y a quelques temps seulement, tout d'un coup, une génisse est née en Galilée, qui était absolument rousse, qui n'avait pas 2 cheveux à un endroit qui avait une autre couleur, pas blanc ou noir. Mais une chose inouïe, parce que de trouver une telle vache, c'est pratiquement impossible. Elle a eu le nom Mélodie, peut-être pour vous rappeler, c'est dans les masses médias du monde entier, Mélodie est née. C'est pas lorsque une génisse est née en Suisse, personne n'en occupe, hein. Seulement s'il a peut-être la maladie des folles, mais autrement on ne s'intéresse pas à l'instance des génisses. Et un article dans Newsweek a expliqué que tout le monde voudrait la tuer. Les uns voudraient tirer dessus et les autres voudraient l'attaquer. Ça rend nerveux tout le monde. Si vous voyez cette génisse rousse qui a été contrôlée, même par, là vous savez, le grand rabbin d'Israël, Obadia, ils étaient d'accord, c'est une génisse rousse selon les règles. Dans le Talmud, il y a un traité qui traite seulement ce sujet de la génisse rousse. Para, vache. Et là il est dit, et elle doit avoir quel âge? Alors on dit 2 ans, 3 ans. Elle peut aussi avoir 5 ans, mais c'est mieux pas. Pourquoi? Parce que le plus elle devient âgée, elle est au danger de recevoir des endroits où il y a d'autres couleurs. Donc il faut la tuer tout de suite. Entre deux, Mélodie est passée. Elle a d'autres cheveux. Mais entre deux, on a de nouveau d'autres vaches qui pourraient servir pour ce sacrifice. Voilà, je finis avec le rocher, encore une fois. On a dévoilé le mystère et nous avons trouvé que ce mystère du rocher nous explique tout l'évangile. Comment nous pouvons obtenir le pardon par le sang de Christ? Comment nous pouvons obtenir la relation intime avec le Père Céleste? C'est un message merveilleux qui doit intéresser le monde entier. Le monde entier doit s'intéresser maintenant pour ce rocher, pour le monde du temple, pour des raisons politiques. Alors prenons l'occasion de parler de l'évangile. Et je finis. Je finis avec la même photo. Nouveau, vous voyez les pentes de l'Est du monde de Sion. Et nous avons trouvé les mystères qui doivent toucher nos cœurs, parce qu'ils montrent où nous pouvons trouver un fondement solide pour notre foi qui ne peut jamais être ébranlé. Vous voyez, 2 Timothée 2 nous dit que le fondement est sûr, n'est-ce pas, le fondement de l'Église. Je lis encore ce verset. Et ça s'applique exactement à nouveau à cette pierre. 2 Timothée 2, verset 19. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ce qui s'en tient, et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Le fondement est sûr. Et vous voyez, le temple de Salomon, où est-il? Il n'est plus là. Il y a seulement encore le rocher. Le deuxième temple, où est-ce qu'il se trouve? Il est parti. Le rocher est toujours là. Alors, des assemblées locales peuvent être détruites complètement. Mais, il ne faut jamais perdre la foi, parce que le rocher, le fondement solide qui est Christ, ça reste. Et il y a des chrétiens qui posent leur foi sur la solidité des murs. Et lorsque les murs tombent, ils perdent la foi. C'est tout faux. Il y a seulement le fondement qui est sûr, qui reste. Tous les autres murs peuvent tomber, mais le rocher lui-même, il reste. C'est ça qui doit être le fondement de notre foi.